Les plus grandes choses dans la Bible se passent au moment du sommeil. Et c'est intéressant de voir que dans la première lecture, par exemple, eh bien c'est Abraham qui reçoit une alliance avec le Seigneur alors que lui-même dort. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'emparera d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Et c'est là que le Seigneur passe comme un brasier fumant au milieu des animaux disposés pour le sacrifice, signe de cette alliance que le Seigneur scelle avec Abraham. Mais il y a aussi un autre sommeil au tout début de la Bible, le sommeil d'Adam. Adam qui découvre qu'il est fait aussi pour l'alliance lorsque Ève, son épouse, est tirée de son côté. Il y a aussi un sommeil dans l'évangile que nous venons d'entendre quand Pierre est endormi et que il se réveille pris de frayeur, et c'est le même mot lorsque on analyse un peu les textes dans leur contexte original, c'est le même mot dont il s'agit. Eh bien, il est pris de frayeur, il était endormi et il voit Jésus resplendissant. Je trouve c'est important de nous redire ces choses-là, et puis on pourra rajouter encore une troisième chose. Jésus qui s'endort sur la croix, vous le trouvez dans les auteurs spirituels, au lieu de dire mourir sur la croix, on parle du sommeil de la mort, s'endormir dans la mort. Et c'est à ce moment-là que se passe la grande victoire de l'amour avec la résurrection. Les plus grandes choses se passent au moment du sommeil, sans compter aussi tous les songes. Et ça, il y aurait beaucoup à dire. Alors, mon propos n'est pas de vous inviter à prolonger votre nuit, qui peut-être pour certains a été un peu courte, même si l'homélie, le sermon est parfois une invitation à une certaine somnolence. J'espère qu'il ne sera pas trop, ou j'espère que oui, peut-être Dieu parlera avec puissance lors de cette méditation, non pas par ma bouche, mais parce qu'il parlera à votre cœur. Dieu bénit son bien-aimé quand il dort, dit le psaume. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que les plus grandes choses dans notre vie nous échappent. Ça nous échappe. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est quelque chose où on n'a pas la conscience. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Il y a un abandon de nous-mêmes. On se remet complètement dans une attitude de disponibilité, de vulnérabilité. Et c'est vrai, quand vous voyez quelqu'un qui dort, on dit ne réveille jamais celui qui dort. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qui... Voilà, cette personne-là, enfant ou adulte, elle est complètement vulnérable, elle n'est pas sur sa défensive, elle n'est pas en train de calculer d'où vont venir les difficultés, de droite ou de gauche. Elle est abandonnée. Elle est dans cette attitude de disponibilité, d'offrande, d'accueil. Elle refait ses forces. Je trouve ça beau que les plus grandes choses dans la Bible se passent justement quand l'homme ne peut plus rien, c'est-à-dire dans le sommeil. Oui, on peut demander au Seigneur, alors que le monde nous pousse au contraire à l'activisme, même en matière spirituelle et en matière d'évangélisation, en matière de transmission de l'évangile. On est beaucoup poussé à nous renouveler la nouvelle évangélisation, alors dans ses méthodes, dans sa manière de faire. Alors on essaye de développer, et c'est normal, et je crois qu'il faut le faire, et nous le faisons aussi comme communauté, des tas de propositions pour toucher le cœur des jeunes, puisque notre vocation comme serviteur de Jésus et de Marie, c'est vraiment cette évangélisation des jeunes, c'était éducateur de la foi des jeunes. Mais je trouve que c'est beau de voir que, au fond, le monde est d'abord dans la main de Dieu. Et c'est bien de se le redire. Il ne dépend pas de nos plans pastoraux. Il ne dépend pas de notre capacité d'initiative, de notre imagination, de notre créativité, de notre quantité de travail. Et quand on accompagne quelqu'un au plan spirituel, on est surpris comme témoin, simple témoin, de l'œuvre de Dieu dans la personne. Dieu est à l'œuvre. Comme une graine qui est plantée, nous dit le Seigneur, eh bien, que l'homme soit éveillé ou endormi, la graine fera son chemin et ensuite se transformera en arbre. Oui, essayons assez de foi pour découvrir le royaume de Dieu à la manière de cette graine plantée, ce royaume de Dieu qui progresse, parce que les temps sont toujours des temps favorables. Les temps que nous habitons sont toujours les temps de l'intervention de Dieu. Et Dieu intervient dans notre histoire, nous le croyons aussi avec la tradition de la première alliance des Juifs. Nous croyons à un Dieu qui intervient dans l'histoire et que la grâce de Dieu précède notre action. Ce n'est pas l'occasion ou la justification d'être paresseux. Non, c'est simplement ne pas tomber dans cette course en avant dont nous ne sommes pas exempts, nous, comme Église. Dans cette course en avant du toujours plus de faire, de croire que j'existe parce que je fais. Je crois que j'existe parce qu'il y a du nombre. Ah, il y a du nombre. Voilà. Alors là, je suis content, il y a du nombre en face de moi. Oui, d'abord, tous ceux qui sont à côté, qui ne sont pas venus, c'est bien d'en faire aussi mémoire. Mais aussi, je trouve bien cette réflexion de Jean-Paul II face à un cardinal lors des JMJ de Rome, avec une multitude de jeunes devant lui, et le cardinal, comme voulant faire un compliment et se réjouissant, on le comprendrait, il disait « Vous avez vu le nombre, très Saint-Père ?» Et lui de répondre « Ce n'est pas le nombre, c'est le signe qui importe. » C'est le signe. Alors oui, il est important parfois de faire nombre pour nous soutenir, de voir qu'on n'est pas tout seul. Vous, jeunes, vous êtes dans vos collèges, dans vos aumôneries, vous êtes bien souvent seul croyant, seul pratiquant, et c'est bien de vous réunir. Mais rappelez-vous que vous êtes d'abord signe. Et le signe, il est toujours peu nombreux, pour que justement ce soit Dieu qui agisse. Il est signe d'un autre. Sa valeur n'est pas en lui-même. Il est signe de celui qui travaille la terre et le cœur de l'homme à la manière d'un ferment. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est important de nous rappeler ça dans une société où il ne reste pas beaucoup de place pour la vie contemplative. Qu'est-ce que j'appelle la vie contemplative ? La vie contemplative, c'est la vie où on apprend l'émerveillement, où on s'émerveille face à la création, face au visage de l'autre, face aux réalisations humaines quand elles correspondent au bien commun, face à l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus beaucoup de place pour une certaine vie cachée. Et on voit bien dans cette société qui gave plus qu'elle ne nourrit, et bien qu'au contraire, il y a une grande peur de l'agenda vide. Il faut faire quelque chose. Il faut que ce soit occupé. C'est important dans l'éducation, par exemple, que l'enfant s'ennuie. Parce que de l'ennui va naître une initiative. De l'ennui va naître un jeu. De l'ennui va naître une créativité. Alors que s'il est gavé, toujours de choses à faire, avec ce petit écran face de lui et ses pouces qui s'agitent à vitesse grand V, où est la créativité ? Il y a besoin d'une dimension contemplative dans notre vie, d'une dimension où on est simplement chez soi, on habite son lieu, on habite sa chambre, on habite sa maison, on est en présence de Dieu. Et cela rejoint un deuxième point dans la vie contemplative, c'est la dimension de la prière qui a à voir avec le sommeil. Non pas que j'invite ceux qui sont dans la prière à somnoler, encore une fois, même si lorsque nous sommes à l'oraison, à 7h30 du matin, les frères, on peut douter de cette fragile limite entre sommeil et prière. Mais la prière, comme le sommeil, laisse à Dieu l'initiative. C'est ça qui est difficile dans la prière. Et c'est ça qui m'est difficile, moi, comme religieux, dans la prière. Parce que ce n'est pas moi qui ai l'initiative. Là, j'ai l'initiative de vous parler, j'ai l'initiative de rencontrer des jeunes, j'ai l'initiative tout au long de ma journée. Mais quand je suis dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui a l'initiative de la rencontre. Ce n'est pas à force de technique de respiration, comme on peut entendre par-ci, par-là. Voilà, on se met dans un état de, un peu de respiration, comme si c'était le fruit d'une technique. Non, c'est d'abord une grâce, la rencontre. C'est d'abord une grâce. C'est gratuit. C'est ça, le signe de la grâce, c'est que c'est gratuit. Tu n'as aucun mérite. Le fait que le Seigneur, sur l'autel, se donne en sacrifice et que ce soit le corps et le sang du Christ qui soient là présents sur l'autel, ce n'est pas le fruit de notre mérite, ni du mérite du prêtre. Ça peut être le dernier des prêtres, mais quand il consacre au nom de son ordination, le Seigneur, dit le curé d'Ars, lui obéit. Il y a une grâce. On n'est plus habitué à ça, au rythme de la grâce, aux choses gratuites, dans une société de plus en plus marchande. C'est intéressant de voir que le pape Benoît XVI, dans sa dernière encyclique, c'est un texte solennel d'un pape, une encyclique qui parle de la réalité économique, ce qu'on appelle les encycliques sociales. Il dit une chose assez étonnante. Il dit dans notre monde, qui est fait d'échanges et de marchandages et d'échanges d'argent, et voilà, c'est la manière que l'on a trouvée pour le moment la moins pire, même si elle n'est pas parfaite, d'échanger les biens et les services. Mais il dit qu'il faut qu'il y ait une place à la gratuité à l'intérieur même de cette société marchande. Parce qu'il faut qu'il y ait une place pour la grâce. Parce que la grâce laisse la place aux plus pauvres, à celui qui ne peut pas rentrer dans cet activisme. Parce qu'on voit bien, le train dans lequel on va, c'est le train d'effort. C'est le train d'effort de ceux qui ont la santé, de ceux qui ont l'intelligence, la formation, le peps, le dynamisme, les winners. Et tous les autres, ils restent sur le quai. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est là. Alors que dans la grâce, eh bien tous sont appelés. Tous sont appelés. Parce que ce n'est pas proportionnel à mon action. C'est le principe de la grâce. Et vous qui êtes là en retraite, chers jeunes, eh bien vous pouvez demander des grâces au Seigneur dans cette messe. Soyez actifs par votre prière en suppliant des grâces lorsque vous viendrez communier au corps du Christ. Eh bien vous pouvez demander que Dieu agisse dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez et que vous portez dans votre prière et votre cœur. Alors ça demande une révolution copernicienne, vous savez, Copernic, vous avez étudié ça pour ceux qui sont plus jeunes dans les livres, dans les écoles, hein, qui a dit, ben non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Il faut comme un décentrement de nous-mêmes. Il faut croire que c'est d'abord Dieu qui agit, non pas nous qui agissons, et lui qui suivrait qu'à un cas. Oui, frères et sœurs bien-aimés, alors que nous voyons Jésus transfiguré, là, voilà, par grâce, il fait resplendir sa divinité devant Pierre, Jacques et Jean, les disciples les plus proches, les apôtres les plus proches. Pourquoi il fait ça? Parce que pourquoi est-ce qu'on reçoit des grâces? C'est tout simplement après, pour aller témoigner, pour soutenir notre intelligence, pour soutenir notre volonté, pour nous donner des forces, oui. Mais parce que nous avons d'abord pris conscience qu'il y a eu une rencontre. Et les disciples, les apôtres qui étaient là au pied de Jésus, sur ce mont de la Transfiguration, n'oublieront jamais ce moment. Et cela les aidera à suivre le Christ jusque au dernier moment. Cela les aidera à suivre le Seigneur. Alors oui, frères et sœurs, rentrons dans un autre rythme. Rentrons dans un autre rythme, qui est le rythme de Dieu. Laissons-le agir dans notre vie, et peut-être une des résolutions des retraites, la retraite que vous faites, eh bien ça peut être celle-ci. Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie, tout simplement. Je veux te laisser faire. Alors vous verrez le Seigneur, peut-être pas transfiguré, parce que ce n'est pas l'habitude, Dieu agit dans la foi, mais vous verrez le Seigneur à l'œuvre, en vous et autour de vous. Amen.